Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet évangile qui est fort connu. Je voudrais juste commenter quelques aspects pour pas être trop long. Tout d'abord, on imagine toute cette foule qui suit Jésus, cette foule qui sans doute fait beaucoup de bruit, et on peut se dire, mais comment ça se fait que Jésus distingue dans ce brouhaha la voix de Bartimée? Il l'appelle, il y a sans doute plein d'appels, il y a sans doute plein de gens qui crient partout, il suffit d'aller dans les rues au Moyen-Orient pour se rendre compte de l'ambiance qui est un peu bruyante, voilà, il y a beaucoup de contacts humains. Et Jésus distingue derrière tout ce bruit la voix d'une personne. Alors aujourd'hui, on est 2000 ans après Jésus, on est complètement habitué au fait, pour nous c'est normal qu'une personne, c'est un nom, une personne ça s'appelle par son nom, une personne ça a de l'importance et ça a tellement d'importance même qu'on dit qu'une personne, c'est un absolu. Voilà. Alors aujourd'hui, on est un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit, et tellement habitué qu'il se rend même plus compte que ça vient de là, ça vient de la marmite s'il est si fort que ça. Et nous, c'est un peu pareil. On est tellement pétri dans l'héritage du christianisme qu'on se rend même plus compte qu'aujourd'hui, si on est capable de dire après 2000 ans qu'une personne humaine a une dignité, qu'on ne peut pas toucher à la vie d'une personne, que le seul absolu, c'est une personne, qu'on peut développer toutes les plus belles œuvres humanitaires de la terre, tous les services les plus perfectionnés, si on en oublie que la première chose, c'est l'amour des personnes, c'est ça qui est en premier dans nos vies, eh bien, toutes les structures qu'on aura créées n'auront pas beaucoup d'importance. Ça, on le cesse de le rappeler, c'est évident pour nous. Mais c'était pas évident à l'époque. C'était pas évident à l'époque. Où certainement le groupe, la société, la communauté des personnes avait plus d'importance que la personne elle-même. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui dans des parties du monde qui ont été moins pétries par le christianisme. On voit bien, par exemple, en Asie. En Asie, l'individu, une personne, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est la collectivité, c'est l'ensemble, c'est le pays, c'est la nation. Après, que ça coûte tant ou tant de vie en personne humaine, ça a moins d'importance. Nous, en Occident, on est pétri là-dedans. On sait que l'absolu, c'est les personnes, que chaque personne a une dignité. Mais tout ça, ça tire sa racine de l'attitude de Jésus. C'est parce que Jésus nous a appris à regarder chaque personne comme ce qu'il y avait de plus important, qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Ce regard de Jésus, il est fondamental parce que il va regarder Bartimée et il va le tirer de l'anonymat. voyez, c'est un parmi tant d'autres, c'est le numéro 175, le numéro 330 de la foule, c'est le 200 millième cri qu'on entend depuis que la foule marche à côté de Jésus. Non, c'est une personne, il s'arrête, et Jésus reconnaît, et va s'adresser à lui. Voyons, on pourrait dire, Jésus, ouais, il a du pain sur la planche, hein, parce que faut qu'il évangélise le monde. Ah non, il va pas s'arrêter, il y a un aveugle là sur le bord de la route, on va peut-être pas s'arrêter, on va continuer son chemin, il y a du boulot, quoi. Non, il s'arrête, c'est une personne qui compte. Voilà, geste fondamental. Et alors nous, dans nos vies, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que, pareil, on se laisse déborder, on peut, je sais pas, être engagé dans des belles œuvres humanitaires, je sais pas, et puis se dire, ouais, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'activités dans mon travail, j'ai plein de choses à faire, et on a tellement de choses à faire qu'on en oublie qu'on a un collègue qui est là, qui va bien ou qui va mal. Nous, dans la paroisse, on pourrait avoir plein de choses à faire, on a tellement d'activités partout qu'on en oublie qu'on a un paroissien qui vient de frapper là. Donc on arrête, on laisse l'ordinateur, les organisations de camp à Thésée, tout ça, on laisse, pof, il y a une personne qui a frappé, voilà, c'est ça, c'est elle qui est importante, c'est pas autre chose. C'est l'amour qui est important. Tout le reste, c'est au service de l'amour. Et ce geste de Jésus nous le rappelle avec force. Et alors Jésus entend cet homme, mais si cet homme n'avait pas crié, ben Jésus serait passé, il aurait continué son chemin avec ses disciples, ils étaient en train de passer, là, je sais pas où ils allaient, ils allaient peut-être sur la place publique, ils allaient peut-être faire les courses chez le Carrefour de l'époque, je sais pas, mais Jésus s'est arrêté parce que Bartimée a appelé. Jésus vient pas nous sauver en disant, bon, ben asseyez-vous tranquillement, je vais tout faire à votre place, et vous, ben, vous avez rien à faire, de toute façon, vous êtes incapables, il faut quand même le reconnaître, les hommes, là, vous êtes un peu nunuches, moi, je vais vous sauver. Non, Jésus nous sauve, mais pas sans nous. C'est ça qui est, Jésus nous considère comme des hommes et des femmes avec une dignité, donc, il ne fait pas de nous des assistés. Allez, vous êtes tous nuls, non, laissez-moi faire, quoi. Franchement, assieds-toi, bouge pas. Non, Jésus nous sauve, mais, avec notre collaboration. Moi, j'aime bien cette phrase de Bernanos qui dit « La toute-puissance de Dieu, Dieu est tout-puissant, la toute-puissance de Dieu s'arrête devant la porte de mon cœur. » Autrement dit, Dieu est tout-puissant, mais il y a quelque chose devant lequel il ne peut rien faire, c'est ma liberté. Il a besoin de mon oui. Si je ne lui donne pas mon oui, Jésus ne pourra rien faire. Il y a quelques jeunes qui partent à Thésée, là. Si on dit, ouais, on va faire un super voyage à Thésée, ça va être trop bien, on va rencontrer plein d'amis. Bon, et puis on verra bien ce qui va se passer. Ah ben non, on verra bien ce qui va se passer. Jésus, il va passer, comme Bartimée. On verra bien ce qui va se passer. Ben, Jésus, il va passer. Il va dire, bon, il m'appelle ou il m'appelle pas, là? Bon, il m'appelle pas, parce que Jésus, il nous repère. Hein. Nous, on le repère pas, mais lui, il nous repère. Donc, il va passer, il va continuer. Parce que si je ne l'appelle pas, si je subis mon voyage à Thésée, ou quoi que ce soit, ma vie chrétienne... Bon, on verra bien le Seigneur. Je suis vraiment dans la galère, mais j'aimerais bien rencontrer le Seigneur, mais il fait rien dans ma vie. Oui, tu l'as appelé? Bah, je sais pas, non, je l'ai pas vraiment appelé, non. Bah, vas-y, plie-le, appelle-le, supplie-le. Saint Paul, il dit, à chaque fois que vous avez des demandes, faites et remerciez le Seigneur et faites entendre vos supplications. Le Seigneur, il a besoin qu'on l'appelle. Il ne demande pas qu'on subisse notre vie spirituelle en attendant sur un siège, mais qu'on dise, Seigneur, qu'on appelle, qu'on appelle, qu'on appelle, qu'on appelle. Sans s'arrêter. Et c'est là où cette prière de Bartimée, toute simple, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, qui est, alors nous, on le dit pas beaucoup aussi, on le dit au Kyrie. Kyrie, c'est du grec, ça veut dire, prends pitié. Alors on le dit 6 fois, là, on l'a chanté, Kyrie, Kyrie, Christe, Christe, Kyrie, Kyrie. On peut le chanter 6 fois, mais on peut le chanter 10 000 fois aussi. Les moines, en Orient, ils ont cette tradition. En Occident, ils le font pas trop, mais en Orient, ils le font. Ils ont cette tradition de dire un peu comme un chapelet, presque avec des grains. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Alors on peut se dire, c'est répétitif, c'est pénible à force. On peut le regarder comme ça, mais je pense que c'est un peu superficiel de regarder comme ça. En fait, c'est une manière de, plus je répète cette parole, plus je deviens cette parole. Plus je répète cette parole, plus cette parole me transforme. Et c'est une prière qui est magnifique. C'est pas une prière qui veut dire « je suis nul, je suis nul, je suis nul ». C'est pas du tout ça, cette prière. Mais c'est « Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est merveilleux. On peut cette prière-là, on peut la dire au volant. On met le chapelet sur la boîte de vitesse. Hop, dans la main, on fait 2 tours pour éviter qu'il y ait un accident et que ça hop, ou le, et puis on conduit avec la main gauche, non, c'est pas bien. Mais voilà, et pendant la route, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dans le bus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. En marchant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est formidable, c'est vraiment, c'est, je prends à cœur ma vie de prière, Seigneur, viens, et la réponse, elle est là, la réponse. C'est que le Seigneur, il s'arrête. Parmi tout le brouhaha de notre vie, toutes les catastrophes, tout ce qui va pas, Jésus s'arrête, il nous repère et il entre dans notre vie. Va, ta foi t'a sauvé. Alors, continuons un petit peu dans cet évangile. C'est marrant, il y a plein de gens qui suivent Jésus. S'ils suivent Jésus, on pourrait appeler ça des disciples. Ces fameux disciples qui suivent Jésus, qui doivent certainement se prendre pour les organisateurs du voyage de Jésus. Ils doivent lui dire, non, Jésus, il faut que tu ailles là, ouais, il faut que t'es attendu à la place publique, là, maintenant, il faut que tu ailles chez Leclerc, ensuite, et ensuite, t'iras, etc. Ils doivent certainement lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. On les imagine un petit peu comme nous, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Eh bien, ces gens-là, qui se disent disciples, qui le sont pour une part, eh bien, c'est eux qui vont s'interposer entre Jésus et celui que Jésus veut voir. Non, non, Bartimée, t'es gentil, là, tu nous saoules, ça fait 50 ans que tu t'es là, aveugle, t'as vu ta tête, tu ressembles à rien, fous-lui la paix, quoi. Laisse-le tranquille, Jésus, là. Puis Jésus dit, non, vous avez rien compris, les gars, c'est lui que je veux voir. Voyez, ceux qui se disent disciples s'interposent entre Jésus et les autres. Combien de fois, avec notre humanité, a priori, si on est là, assis à dans cette église ou là, on se dit disciple de Jésus, on veut suivre Jésus. Combien de fois on s'interpose entre Jésus et les autres? En fait, on organise le voyage de Jésus à sa place. Alors Jésus, il faudrait que tu viennes à la cathédrale Saint-Étienne. Non, mais le gars là qui est à rue de la Marne, là, il nous saoule. Non, mais viens à la cathédrale Saint-Étienne, ce sera mieux. Lui, alors, chacun, on va dire les mots qui nous passent par la tête. Hein. Ben non, Jésus, justement, c'est pas nous l'organisateur de son voyage. Lui, il sait très bien qui il veut rencontrer. Alors, souvent, ça nous surprend. Ouais, ça nous surprend, parce que les vues de Jésus ne sont pas les nôtres. Nous, on a nos vues, mais Jésus a les siennes. Et Jésus, il est venu pour tout le monde. Et c'est régulièrement déstabilisant que d'avoir des projets. On voit la vie chrétienne d'une certaine manière, et puis hop, tout d'un coup, il y a quelqu'un qu'on supporte pas, qu'on n'a pas d'affinité, qui vient sonner au mauvais moment, à la mauvaise heure, etc., pour dire la mauvaise chose. Mais c'est lui qui est sur notre route. C'est lui. C'est pas, non, c'est lui. C'est lui. Voilà. Ben, c'est formidable. C'est formidable parce que, voilà, ça déstabilise un peu, ça surprend. Mais c'est, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Alors, on peut se dire combien de fois mon humanité, j'ai mauvais caractère, mon impatience, le fait que lui il me rappelle, il y a 15 ans j'avais vu une personne qui m'avait saoulé, et lui il a la même tête, donc pas de chance pour lui, etc. Tout un tas de choses qui font que mon humanité, mon caractère, mes blessures, eh bien, c'est le cas pour chacun de nous. Hein. Elles constituent un obstacle à Jésus. Combien de fois on aimerait bien être transparent, totalement transparent, qui me voit Jésus, formidable, ben non. Qui me voit aussi un mauvais caractère, qui me voit aussi quelqu'un qui peut être impatient, qui me voit aussi quelqu'un qui dit des choses et puis qui les fait pas forcément, qui me voit quelqu'un qui a ses coups de flemme, etc., etc. Ben oui, j'aimerais bien être Saint Jean-Baptiste, nous aimerons bien être Saint Jean-Baptiste, qui montre Jésus, il n'y a pas de problème, il y a ses disciples qui voient Jésus, leur dit, ben, allez à Jésus directement, c'est formidable. Mais il faut se rendre compte que dans nos vies, on a aussi un peu des obstacles. On suit Jésus, mais aussi on a un peu des obstacles. Et c'est là où, eh bien, on peut dire, comme l'aveugle, ben, prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi. Voilà, je t'offre ma faiblesse. Je t'offre tous mes défauts, qui sont parfois des obstacles. Moi, en tant que prêtre pour les paroissiens, parce qu'ils se gaufrent mes défauts en pleine figure, c'est pas toujours très marrant. Peut-être que j'en froisse, peut-être que j'en blesse. Mais Seigneur, prends pitié de moi. Voilà, et c'est vrai pour chacun de nous dans nos vies, quoi. Je résumerai après, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dernière chose qui me marque, c'est cette phrase de Jésus. Il connaît Bartimée depuis longtemps, il connaît mieux que chacun de nous. Mieux que Bartimée lui-même ne se connaît. Et il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? On a voulu dire, mais attends, t'as pas vu qu'il est aveugle, il a un énorme bandeau sur les yeux, et toi tu lui demandes qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, il ouvre les yeux, tu verras, a priori c'est la guérison qu'il veut. Non, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est extraordinaire. Jésus demande encore la liberté, il n'impose pas la guérison, il n'impose pas le salut, et puis, alors il va dire que je vois. Et ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce que Dieu veut pour nous, c'est pas un truc extérieur à nous, vous savez, moi j'aimerais bien être ébéniste dans ma vie. Ah, pas de bol, Dieu il veut que tu sois garagiste. Pas de chance. Tu vois, alors maintenant tu te tais et tu fais ce que Dieu il te dit. Vous savez, parfois on a l'impression que la volonté de Dieu, c'est un peu ça dans nos vies. Elle nous fait peur. Qu'est-ce qu'il va me demander, Dieu? Moi je voudrais être ébéniste, et maintenant lui il m'a dit qu'il fallait que je sois informaticien. Alors, je supporte pas les ordinateurs. Si Dieu, il a dit qu'il fallait que tu sois informaticien, on a l'impression que la volonté de Dieu est extérieure à nous. Dieu, il a des idées, mais qui sont pas les nôtres. Il veut notre malheur. Nous, on aimerait bien être heureux, mais lui, non. Mais non, pas du tout. Dieu nous connaît. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc, la volonté de Dieu, si on veut la chercher, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est là qu'on va la trouver. Dans notre cœur. La volonté de Dieu, elle correspond à mes désirs les plus profonds. Simplement, mes désirs les plus profonds, je ne les connais pas toujours. Parce que j'ai du mal à aller au fond de mon cœur chercher mes désirs les plus profonds. Mais Dieu, si le jour où je trouve la volonté de Dieu pour moi, je trouve ma vocation à tout âge, mais je trouve ce qui correspond pleinement à moi-même. Pourquoi on a peur de la volonté de Dieu sur nous? Parce qu'on s'imagine que c'est un truc complètement extérieur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi, va chercher dans ton cœur. Ah, qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi? De voir. Ça tombe bien, c'est aussi ce que je veux pour toi. N'ayons pas peur de la volonté de Dieu pour nous. Benoît XVI, il dit, n'ayez pas peur du Christ. Il donne tout et il n'enlève rien. On a une idée souvent de la volonté de Dieu, l'espèce de Big Brother qui est derrière les nuages, et qui veut je sais pas trop quoi pour nous, pas du tout. Alors je vais résumer un petit peu ces quelques points qu'on peut tirer de l'évangile. Tout d'abord, Jésus nous apprend à reconnaître qu'il n'y a pas plus important que les personnes qu'on rencontre. Derrière le brouhaha de la foule, il y a un visage, c'est Bartimée. Derrière le brouhaha de nos activités, boulot, famille, tout ce qu'on veut, il y a des personnes, c'est là que nous sommes attendus. L'amour des personnes, pas d'autre chose. Deuxièmement, Jésus ne peut rien sans notre liberté. Si je ne l'appelle pas, si je ne le supplie pas de venir dans ma vie, de venir voir ce qu'il est souci de ma vie, Jésus va rester à la porte. Il va attendre, mais il va rester là. Tu veux que je vienne? Allez, appelle. Troisièmement, on se dit disciple de Jésus, mais combien de fois dans notre vie, à cause de nos défauts, notre humanité, on a tous nos blessures, on fait écran à Jésus un peu. Alors heureusement, Jésus nous reprend et dit, stop, arrêtez de le rabourrer, Bartimée, là. Appelez-le. Bon, d'accord. Alors ils sont gentils, ils vont l'appeler, ils lui disent, tiens, confiance, il t'appelle. Ouais. Bon, mais Jésus nous reprend aussi, souvent il nous dit, non, lui là, tu pensais que c'était un plouc ou je sais pas trop quoi, non, c'est lui que je veux voir. Bon, bah d'accord, ok, on y va. Il faut accepter de se laisser un peu déranger par le Seigneur. Et puis, dernièrement, quand Dieu veut quelque chose pour nous, Dieu veut quelque chose pour nous, que ta volonté soit faite, ô notre Père. Mais n'ayons pas peur. C'est ce qui correspond à notre plus grand bonheur, à notre plus grand épanouissement. Et la volonté de Dieu, on va la chercher dans notre cœur, au fond de nous. Voilà, alors demandons au Seigneur de nous montrer ce qu'il attend de nous, de nous montrer sa volonté, et de nous donner le courage de l'accueillir, voilà, dans la foi. Amen.